Soyez les bienvenus sur CFM Cahors. Excusez-nous pour ce petit, interruption momentanée du programme. C'est parce que nous sommes en direct depuis le centre universitaire Maurice Faure à Cahors. On est en direct du forum de la laïcité organisé par l'UDAF. Alors, le forum de la laïcité, c'est un forum avec évidemment beaucoup de gens qui vont parler laïcité pendant toute l'après-midi. Nous, ici, jusqu'à 14h, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que la laïcité au final, et puis concrètement, comment ça se traduit. En tout cas, une chose est sûre, nous sommes là pour en parler et notre premier invité, j'ai le plaisir de recevoir Daniel Verba. Bonjour Daniel Verba.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et vous êtes même sociologue de l'Université Paris 13 et chercheur à l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux contemporains. Bref, un gros programme quand même, dites-moi. En ce moment, la laïcité, ça doit vous occuper pas mal dans vos recherches, non ?
Alors oui, ça fait quelques années en effet que la laïcité est redevenue un sujet d'actualité, après avoir été un tout petit peu en sommeil, puisque on peut dire que ce principe très important de notre République était relativement bien digéré par l'ensemble du corps social, que les catholiques, qui étaient quand même les principaux concernés dans cette histoire, et les plus hostiles finalement au principe de laïcité, avaient finalement considérer que c'était un principe avec lequel il pouvait cohabiter.
Alors, c'est quoi la laïcité au final ? Parce qu'on a l'impression qu'on le met à toutes les sauces. Donc, mais réellement, vous, en tant que sociologue, c'est quoi être laïque ?
Alors, il y a des controverses aujourd'hui autour de ce qu'est la laïcité. Pour moi, la laïcité, c'est un principe juridique et politique qui structure les relations entre l'État et les religions.
D'accord.
Ce principe, il est relativement simple. Il est décrit par la loi de séparation de 1905 par principalement deux articles qui sont très faciles à lire, que tout le monde peut consulter sur Internet, et qui, en fait, au départ, étaient principalement discutés, débattus par les députés de l'époque pour régler le problème du financement des cultes. C'était ça, en fait, l'objet principal de la discussion des députés en 1905, qui devait payer l'entretien à la fois des bâtiments, mais aussi l'entretien des prêtres, des monastères, etc. etc. C'était ça, l'objectif principal de la loi de 1905, qui a ensuite devenu un véritable débat idéologique entre ceux qui souhaitaient neutraliser l'espace public et retirer tout signe religieux de la vie sociale, collective, et ceux qui, au contraire, considéraient la laïcité comme un principe de liberté, trois libertés importantes, en fait, que garantit la laïcité, la liberté de conscience, celle de croire ou de ne pas croire, la liberté d'expression religieuse, car en effet, la laïcité garantit la liberté d'expression religieuse, même la liberté d'expression religieuse dans l'espace public. On l'oublie malheureusement un peu trop souvent. Et troisièmement, la liberté des cultes, c'est-à-dire l'égalité entre tous les cultes, le fait que, que l'on soit catholique, chrétien, protestant, juif, musulman, bouddhiste, on a le droit, dans la République française, de trouver des lieux de culte et d'exprimer en fait son appartenance religieuse. Je comprends aussi dans ces appartenances le fait d'être athée, agnostique, etc. etc.
Alors, c'est un peu, un petit peu brouillon quand on parle de laïcité, Daniel Verba, parce que, par exemple, si on prend l'exemple, moi, quand j'étais gamin, je me souviens très, très bien de ce combat pour l'école laïque que les parents d'élèves, les professeurs, les instituteurs avaient lancé. On ne parlait pas trop de religion. Et maintenant, on se demande si il faut effectivement parler de religion dans un établissement scolaire ou un établissement public. Est-ce qu'il faut mettre couvert ? Est-ce qu'il faut porter le crucifix sur soi ? Le sujet est quand même diversifié. J'ai même l'impression qu'on s'égare par rapport au début de la laïcité.
Alors, la laïcité est devenue aujourd'hui un objet de débat idéologique entre, au fond, ceux qui souhaitent toujours, comme Émile Combes en 1905, neutraliser l'espace public, c'est-à-dire interdire toute expression religieuse, et ceux qui défendent en fait le texte de loi qui finalement a été voté, porté par Aristide Briand, et qui lui est beaucoup plus libéral, qui finalement laisse beaucoup de liberté à l'expression religieuse. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que, au fond, une fraction à la fois du monde politique, mais aussi des citoyens de la société française, souhaite faire de la laïcité une sorte de bouclier contre les religions et plus spécifiquement contre une religion, qui est la religion musulmane.
Ça, c'est nouveau, par contre.
Alors voilà, ça, c'est depuis la fin des années 80, depuis l'émergence, disons, d'un islam plus visible dans l'espace public, la laïcité a été brandie, au fond, comme une sorte d'arme visant à empêcher cette expression religieuse-là. Elle avait, en premier lieu, empêché l'expression religieuse des catholiques. Elle a ensuite, elle s'est saisie, au fond, de cette opportunité pour combattre un islam trop visible aux yeux de certains dans l'espace public. Et donc, on a aujourd'hui une véritable bataille entre les tenants d'une laïcité relativement libérale, qui, au fond, est assez tolérante, et même très tolérante avec l'expression religieuse en général, pas seulement celle des musulmans ou des catholiques, mais dans la totalité des appartenances religieuses, et ceux qui veulent, encore une fois, neutraliser cet espace public, empêcher, au fond, toute expression du religieux, et... disons, instaurer un système véritablement neutre religieusement.
Alors, en fait, en même temps, Daniel Verba, est-ce que ce n'est pas de la faute aux religions aussi ? Est-ce que les religions acceptent la laïcité ? C'est peut-être ça aussi le débat, alors, non ? Ou c'est celui qu'on veut lancer, peut-être ?
La première qui a été concernée par la laïcité, c'est la religion catholique romaine, qui était le principal sujet de débat, en fait, en 1905. Il n'y avait quasiment pas d'autres religions en France. Il y avait une toute petite communauté juive, et puis une communauté protestante, mais chrétienne, donc finalement quand même relativement proche de la grande majorité catholique dominante. Donc ça a d'abord été la religion catholique qui a été la principale, on va dire, concernée par la laïcité, puisqu'elle a perdu une grande partie de ses prérogatives éducatives, sociales, culturelles. Elle a perdu beaucoup de pouvoir, en fait, dans cette affaire. À partir des années 80, ça n'est plus la religion catholique qui fait l'objet, au fond, de discussions. Plutôt, ce ne sont plus les catholiques qui remettent en cause la laïcité. Mais la laïcité revient sur le devant de la scène parce qu'on a l'émergence dans l'espace public d'une nouvelle religion, qui est quand même aujourd'hui la deuxième religion en France. C'est quand même une nouveauté, ça. L'islam n'existait quasiment pas il y a un siècle. Et par conséquent, cette nouveauté va, au fond, réveiller les ardeurs laïques. Et quand je dis les ardeurs laïques, je dirais presque les ardeurs laïcards ou voire anticléricales. Parce qu'au fond, derrière cette défense de la laïcité, on a aussi l'expression d'un anticléricalisme chronique qui existe depuis la Révolution française dans la société qui est la nôtre.
Alors Daniel Verba, dans ce forum sur la laïcité qui est organisé par plusieurs partenaires, il y a l'UDAF avec la CAF du Lot, la préfecture du Lot, celle de la région Occitanie. Pourquoi vous avez accepté d'y participer ?
Alors, il se trouve que je participe depuis plusieurs années à la formation des formateurs laïcité de l'éducation nationale des collectivités territoriales et qu'à cette occasion, Mohamed Touil, qui est l'un des membres de l'UDAF, qui m'avait entendu en fait dans une visioconférence, avait été intéressé par mon propos. Il se trouve que je ne suis pas forcément un sociologue de la laïcité, mais ce qui m'intéresse, c'est la façon dont les acteurs professionnels s'emparent de cette question pour accompagner les personnes vulnérables. C'est ça, au fond, mon objet d'étude principal. Il y a des grands sociologues de la laïcité comme Jean Bobreau, comme Jean-Paul Willem, comme Philippe Portier, etc., qui sont des très grands sociologues des religions et des faits religieux et de la laïcité. Moi, je me suis vraiment spécialisé dans une sorte de niche. Je m'intéresse vraiment à la façon dont les travailleurs sociaux, dont les professions du care, les professions de personnes vulnérables, tous ceux qui s'occupent des gens en difficulté, qui sont malades, handicapés, etc., comment ceux-ci traitent de cette question de la laïcité, parce qu'au fond, elle traverse toute la société et toutes les activités professionnelles. Quand on travaille dans une maison d'enfants à caractère social, dans un CHRS, dans un service social, quand on travaille dans un hôpital, etc., on est confronté à des personnes qui ont des revendications religieuses. Par exemple, au moment de mourir, beaucoup de gens revendiquent d'avoir quelqu'un pour les accompagner à l'hôpital. En prison, on accompagne aussi des gens du point de vue religieux. Et puis, on a C'est vrai, parmi les minorités visibles, donc les personnes arrivées en France les plus tardivement, on va dire, beaucoup ont été socialisés dans des pays où la religion a une très forte influence et où le social est imbriqué dans le religieux. Et par conséquent, ces personnes-là sont parfois un peu désarçonnées par la manière dont nous avons séparé les choses. D'un côté, le pouvoir religieux, d'un côté, le pouvoir civil.
Est-ce que, au final, la laïcité, ce n'est pas une religion? Parce qu'elle utilise toutes les codes de la religion.
Tout à fait, c'est une très bonne question, c'est une question tout à fait pertinente. Je me promenais tout à l'heure dans les rues de Cahors.
Très jolie ville, vous avez vu. Hein.
Très belle ville. Et que je découvrais pour la première fois, il se trouve que je n'étais jamais venu à Cahors. Et je suis tombé, tout à fait par hasard, sur un arbre de la laïcité, tout près d'un petit square, et qui montre que la laïcité fait l'objet d'un culte, comme des divinités ont pu faire l'objet d'un culte aussi. Donc il y a un vrai culte, comme il y a eu un culte de la raison durant la Révolution française, il y a un culte de la laïcité, il y a ce qu'on appelle les laïcars, qui ont développé une véritable apologie presque religieuse de la laïcité, qui en font une religion alternative. Or, les députés de 1905 n'ont absolument pas voulu de ça. Ils ne voulaient pas recréer une religion. Ils voulaient structurer un principe qui permette la cohabitation de toutes les religions. C'était ça.
Le respect de l'un de l'autre,
voilà.
Quelles que soient les croyances.
Cohabitation de toutes les croyances ou des non-croyances.
On n'y est plus.
C'est très
là.
Important. Les non-croyants ont aussi une place dans la laïcité. Par conséquent, vous avez tout à fait raison de pointer ce que j'appelle un dévoiement de ce principe de laïcité où certains d'entre nous veulent en faire une véritable religion, donc quelque chose finalement qu'on ne peut pas remettre en cause, qui doit neutraliser toute expression religieuse ou que ce soit, etc.
Daniel Verba, on passerait énormément de temps à discuter. J'aurais encore tellement de questions à vous poser. Ça va être difficile aujourd'hui. Il y a d'autres invités qui vont arriver. Et donc, je renvoie quand même les gens vers ce livre que vous avez sorti, « Anthropologie des faits religieux dans l'intervention sociale ». C'est aux éditions SO, on dit comme ça ?
IES. C'est un éditeur genevois.
D'accord, très bien, que vous pouvez commander chez votre marchand de journaux, chez votre libraire, de Daniel Verba, et je pense qu'on en saura un petit peu plus sur ces études que vous faites, et je pense qu'à mon avis, vous n'êtes pas prêt de prendre votre retraite, parce que c'est un sujet qui, la laïcité, qui est vraiment très présent, et il y a encore pas mal de recherches à faire, j'imagine.
Tout à fait, c'est un sujet brûlant, un sujet sensible, plein de controverses, qui est un sujet aussi hautement politique aujourd'hui, et par conséquent, il y a encore du travail.
Merci Daniel Verba d'être venu. Vous êtes sur CFM Cahors, juste le temps que le deuxième invité puisse s'installer, on va continuer de discuter de tout cela sur ce forum de la laïcité. Il y aura des invités encore aujourd'hui jusqu'à 14h, et puis bien sûr, on aura l'occasion de vous parler un peu plus de ce qu'est réellement la laïcité. À tout de suite. CFM Cahors de retour donc au Forum de la laïcité depuis le centre universitaire Maurice Faure à Cahors. On est en train de parler donc laïcité, c'est organisé par l'UDAF avec la préfecture. Nous aurons effectivement la préfecture du Lot dans quelques instants avec nous, mais d'abord le directeur de l'UDAF du Lot qui est avec nous. Bonjour Tristan Hérault. Alors, Tristan Hérault, directeur de l'UDAF du Lot, vous avez décidé, là, à l'UDAF, d'organiser ce forum laïcité à destination aussi, surtout des professionnels quand même.
Oui, c'est plutôt notre objectif, sachant que on a estimé que les professionnels étaient les voies de transmission après, ensuite, pour être en lien avec les personnes qui sont suivies, notamment, comme vous l'évoquiez tout à l'heure avec M. Verba, les personnes qui sont en difficulté et qui peuvent être suivies, notamment par l'UDAF.
Alors pourquoi faire ce forum au final ? Il y en avait besoin ?
Oui, parce que je pense que c'est une notion et un principe qui est compliqué et qui, du coup, a besoin d'être réexpliqué, que ce soit à tout le monde pour bien le percevoir. Et puis parce qu'au niveau de l'UDAF, on essaye de faire en sorte que le vivre ensemble soit une réalité. Et donc, il y a besoin de réexpliquer ce genre de principe pour pouvoir justement améliorer ce vivre ensemble.
Concrètement, ça se traduit par quel geste au niveau de l'UDAF, hormis ce forum justement où des gens pourraient dire « bon, là, ce ne sont que des gens qui vont discuter entre eux, etc. » Mais je pense qu'à l'UDAF, vous n'êtes pas inactif non plus sur ce sujet.
On essaye notamment de sensibiliser nos professionnels à ça, puisque on est confronté, de par l'émission, notamment le service tutélaire, par exemple, qu'on est amené à gérer, à avoir des professionnels qui sont amenés à s'occuper de personnes qui ont diverses religions, qui peuvent avoir des positionnements et des questionnements à ce niveau-là. Et donc, il faut qu'on puisse outiller nos professionnels pour pouvoir faire face à des problématiques qui parfois peuvent être compliquées.
Voilà. Est-ce que les gens qui travaillent à l'UDAF, pour parler de vous, mais c'est valable aussi pour d'autres associations de famille ou de d'éducation. Oui. Est-ce que vous êtes rendu compte d'un changement aussi au niveau de la laïcité, changement de direction Tout à l'heure, Daniel Verba, le sociologue, disait effectivement en 1905, c'était pas du tout ce que l'on vit maintenant. Vous l'avez senti, vous aussi?
Nous, ce qu'on a senti, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des personnes qui se saisissent en gros de la religion, pour parfois s'opposer, par exemple, à des mesures, ou pour pouvoir être opposant à d'autres personnes, etc. Donc je pense que ça fait partie des mouvements de société. Les gens que l'on suit au niveau du DAF sont les gens qu'on croise un peu partout, donc ils ne sont pas étrangers à ce genre de phénomène. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument être sensibilisé. Et comme je le disais juste avant, l'UDAF est là pour essayer de... C'est l'Union départementale des associations familiales, et donc on a des associations qui vont du GDAFAL, donc qui sont associations laïques, jusqu'aux associations des familles catholiques. Donc du coup, on a une palette très diversifiée d'associations, et on a dans notre conseil d'administration le souhait de faire en sorte de favoriser le vivre ensemble, que ce soit déjà aussi entre les associations.
On peut être une association religieuse, enfin catholique, et être laïque?
Alors là, après, il faudrait le poser aux associations concernées. Mais oui, il n'y a pas de raison que ce soit incompatible, bien sûr.
Ça, c'est le principe de la laïcité, c'est d'ailleurs. Principe, c'est voilà, de le vivre ensemble.
Exactement.
Voilà. D'accord. Je sais que vous formez aussi... alors, on aura l'occasion, je l'espère, avec Mathieu Rossignol, qui est formateur, justement, ouais, sur ces sujets-là auprès des professionnels. Mmh. Ça veut dire qu'il y avait un manque de ce côté-là?
Il y a toujours un manque, parce que je pense que ça fait partie des choses qu'il faut remettre régulièrement sur la table. Et donc, je pense qu'il y aura d'autres intervenants aussi qui pourront en parler. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il est nécessaire de rediscuter et d'échanger de manière régulière. C'est quelque chose qui peut parfois avoir tendance à se perdre si on n'y fait pas attention. Donc du coup, il faut vraiment être vigilant par rapport à ça.
Est-ce que vous avez peur que la laïcité s'efface ?
Non, j'ai pas peur que la laïcité s'efface, mais après, elle peut être mise à mal, le principe peut être mis à mal si on n'y prend pas garde. Donc c'est pour ça que je pense que ça fait partie des missions de l'UDAF, d'être vigilant par rapport à ça et de participer lorsqu'elle le peut à ce genre de débat et à le mettre sur la place publique pour pouvoir justement que ce principe-là ne disparaisse pas ou soit malmené.
D'où le nombre d'intervenants, d'ailleurs, qui interviennent sur ce forum de la laïcité. C'est incroyable le nombre de sujets qui peut être finalement, dans juste avec un mot laïcité, le nombre de ramifications que ça engendre.
Oui, parce que c'est quelque chose qui est vraiment transverse à notre société. Et donc du coup, ça concerne dans les partenaires que nous avons, on a la préfecture, mais on a aussi donc la CAF, on a évidemment le GDAFAL, on a tout plein d'associations et de partenaires qui sont vraiment concernés par ça et qui leur sont à leur niveau et qui vraiment ont besoin aussi de participer à ça. Ça nous paraissait évident de travailler avec tous ces mondes-là.
Qu'est-ce que vous attendez de ce forum au final?
Eh bien, que du coup, ce soit quelque chose qui soit bien compris par les professionnels qui vont pouvoir intervenir ou les bénévoles qui vont être là, et que après, ils soient capables eux-mêmes ensuite d'en parler de manière beaucoup plus sereine aux personnes qui pourront rencontrer et croiser et débattre sur ce sujet.
Alors, dans ce forum de la laïcité, justement, vous avez décidé de donner la parole aussi aux gens qui vont venir y assister.
C'est important.
Vous attendez à quelle sorte de questions? Ou est-ce que au contraire
Je ne sais pas. Ça va être la surprise. Mais après, voilà, je pense que ce qui est important, c'est surtout d'instaurer la possibilité de débattre de ce genre de sujet. L'idée, c'est de le faire de manière sereine et de pouvoir justement d'être dans un lieu qui amène à la réflexion. Et donc, du coup, l'idée, ce n'est pas vraiment de faire de polémique ou de choses comme ça, mais vraiment, au contraire, de pouvoir en parler sereinement.
Vous avez envoyé pas mal d'invitations, j'imagine ?
Oui, oui, on a, nos partenaires aussi l'ont largement relayé, donc on a normalement plutôt eu un bon retour là-dessus. On se fixait une limite à peu près d'une cinquantaine de personnes et on est largement au-delà de gens qui ont souhaité participer à ce débat. Donc,
donc ça va être intéressant.
Ça devrait l'être.
Ça devrait l'être. Ouais. On rappelle que vous avez prévu, alors si je regarde effectivement le programme, il y a en fin d'après-midi, alors il y a d'abord la conférence de Daniel Verba que nous avons eue juste avant vous, qui va nous parler du principe de la laïcité, d'appréhender les faits religieux et la laïcité en situation professionnelle. Et puis juste après, c'est Mustapha Afrouk qui sera en visioconférence pour parler du principe de la laïcité et ses implications. Et puis, il y a cette table ronde avec différentes personnes. Alors, j'ai cru comprendre qu'Aurélien Pradier n'a pas pu venir.
Et Covid oblige.
Covid oblige. Qu'il y aura Claude Pouget de la Ligue de l'enseignement, hein, qui est membre du GDAL. Le GDAL, c'est le... voilà, je vous ai posé une colle, je me posais vous parce que pour moi c'en est une aussi. Donc voilà, il y aura l'Académie normalement de Toulouse et pas mal de choses. Donc voilà. Merci beaucoup d'être passé, Tristan Hérault. Et puis on attend effectivement ces échanges de table ronde en espérant que les professionnels trouveront des réponses. Mais avec les intervenants que vous avez trouvés.
Ça devrait être riche. Oui.
Ça devrait être pas mal.
Voilà. Merci.
Merci. On revient dans quelques instants. Cette fois, ce sera avec la préfecture sur CFM Cahors. CFM Cahors de retour actuellement au sein de la, comment dirais-je, du centre universitaire, j'allais dire de l'université, mais oui, ça marche aussi. Maurice Faure à Cahors, on est au plein cœur du forum de la laïcité, organisé par l'UDAF, organisé par la CAF, organisé par, par la préfecture du Lot, qui nous fait le plaisir d'être là en la présence de Nicolas Régny. Bonjour Monsieur Régny.
Bonjour à tous.
Alors votre rôle à vous, vous êtes sous-préfet de Cahors et directeur, il me semble,
secrétaire général
de la préfecture. Quelle est la différence entre les deux d'ailleurs ?
Le directeur de cabinet s'occupe principalement des affaires de sécurité et le secrétaire général de la préfecture gère le contrôle des lois et la gestion du personnel, leurs relations avec les élus, notamment bien sûr les communes et les maires.
Et votre venue aujourd'hui, c'est avec quel rôle ?
En tant que sous-préfet de Cahors, on est sur l'arrondissement de Cahors. Voilà, donc je suis compétent, si je puis dire, territorialement sur Cahors.
Comment ça se passe au niveau justement de Cahors, du Lot ? Est-ce qu'il y a des problèmes de laïcité ? Dans certains endroits en France, c'est plus présent. Comment ça se passe ici dans le département ?
On peut bien poser la question, puisque quand on est sous-préfet, on fait plusieurs territoires, on fait plusieurs postes dans sa carrière. Et pour tout dire, effectivement, dans le Lot, terre républicaine, terre laïque, on peut dire qu'il n'y a pas de problème. Clairement, on vit une laïcité apaisée, si je puis dire. Pour autant, la laïcité reste un sujet d'actualité. On est amené évidemment à s'adapter à l'évolution du monde moderne. Et donc, les lois qui ont été votées en 1905 ont été votées dans un autre monde que celui qu'on vit aujourd'hui au XXIe siècle.
Donc, alors, il faut les refaire ?
Non, il ne faut pas refaire, mais simplement adapter nos pratiques, nos relations, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y avait qu'une religion principale et très, très dominante en 1905. Aujourd'hui, c'est très différent. Et puis surtout, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans les départements, dans le Lot, comme dans le reste de la France, terre d'accueil, terre d'asile, est amenée à accueillir les étrangers. Je vais prendre un exemple récent, je pense aux Afghans, quelques Afghans qui ont été accueillis cet été dans le département. C'est des gens qui, en termes de lien avec la religion, viennent d'une autre planète, si je puis dire. C'est, comparé ici, c'est un peu la Lune quand vous êtes en Afghanistan. Donc, les gens qu'on accueille dans le département, on est bien obligé, effectivement, d'avoir une période d'accompagnement, de conseil, de pédagogie pour expliquer, effectivement, que la relation entre l'État et la religion est complètement différente dans d'autres pays. Je dis ça pour les Afghans, mais aussi c'est valable pour les Américains, voire même pour les Anglais. On a beaucoup d'Anglais dans le département. Je rappelle que la chef de la religion anglicane en Angleterre, c'est la reine. Donc c'est quand même très différent chez nous.
C'est vrai. Et puis il ne faut pas oublier que la laïcité, la religion, ce n'est pas que le catholicisme, ce n'est pas que l'islam. C'est aussi le bouddhisme, par exemple.
Oui, exactement.
Du moment que l'on croit en Dieu, la religion juive. Concrètement, la préfecture, elle agit comment justement pour la laïcité?
Alors il y a plusieurs choses. D'une part, je rappelle que donc, le préfet et les sous-préfets sont le garant, j'irais, du respect des lois de la République. Donc déjà, on fait respecter la loi s'il y a besoin. Comme je l'ai dit, en termes de laïcité, il n'y a pas vraiment de sujet dans le Lot. Pour autant, le préfet est un acteur du vivre ensemble et est un garant du bien-être et de la vie sociale. Et donc, dans ce cadre-là, on est amené évidemment à avoir des relations avec tous les acteurs de la vie associative, religieuse, etc. Et à ce titre-là, on rencontre bien sûr les autorités religieuses. Et c'est toujours d'ailleurs un plaisir d'échanger avec eux. Avec bien sûr dans un regard de neutralité et de bienveillance. Et on a bien sûr des sujets sur lesquels on est amené à travailler ensemble. Je pense par exemple le 11 novembre. Je rappelle que 1,5 million de Français sont morts entre 14 et 18 et il y avait des différents cultes. Et dans ce cadre-là, par exemple, en tant que sous-préfet, la première fois de ma vie où je suis rentré dans une synagogue, c'est pour assister à une messe en mémoire des soldats israélites morts pour la France. Alors c'était à Besançon, ici il n'y a pas de communauté israélite dans le département, mais nos fonctions de sous-préfet nous amènent à avoir des contacts, à avoir un esprit d'ouverture vis-à-vis des religions et à les rencontrer, et ça permet aussi, je le dois dire de manière individuelle, ça m'a permis de visiter des mosquées, des synagogues. Par contre, je le précise, on assiste parfois à des offices religieux, mais on n'y participe pas, on n'est pas participant.
La préfecture, ça agit, quand vous parlez de protection, on pense notamment à toutes les cérémonies religieuses, quelles qu'elles soient, en y mettant des policiers, quelle que soit leur religion.
S'il y a besoin, effectivement, on le fait effectivement par rapport à certains moments de certaines périodes de l'année. Il y a certains événements qui sont particulièrement surveillés par rapport au risque terroriste. Après, ces établissements religieux qui peuvent être sensibles, c'est pas trop le cas dans le département. Il peut y avoir aussi, je pense à Rocamadour, des périodes de pèlerinage, des choses comme ça. Mais je rappelle qu'on surveille aussi d'autres sites que les sites religieux. Ça peut être des grandes surfaces, ça peut être des aéroports, les gares. Ouais, fait partie des établissements qui sont soumis à parfois une certaine surveillance, effectivement, dans le cadre de la prévention du terrorisme.
Pourquoi la préfecture a décidé effectivement de venir ici à ce forum de la laïcité? Qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter?
Alors, d'abord, il faut rappeler que cette semaine, c'est la semaine de la laïcité au niveau national.
C'est une bonne excuse, donc, effectivement, c'est vrai.
C'est plus qu'une excuse, c'est un bon motif, tout d'abord. Et puis, il faut dire, dans le Lot, avec ces périodes de confinement, déconfinement, reconfinement qu'on a connues, on s'est moins rencontrés, on a moins eu l'occasion de parler laïcité. Et puis, c'est vrai que faire un point, échanger sur le sujet, faire un forum, on ne l'avait pas fait depuis longtemps, c'est un projet depuis longtemps, ça nous paraissait intéressant de le faire maintenant.
Merci Nicolas Rigny d'être venu. Je rappelle que vous êtes sous-préfet de Cahors et ça y est, j'ai oublié votre secrétaire général de la préfecture du Lot. Merci d'être venu. Dans quelques instants, nous serons avec la CAF. Juste le temps pour nous de nous faire une pause musicale parce qu'on a bien besoin, le temps que ces personnes-là viennent s'installer. Et on continue depuis le centre universitaire de Cahors pour ce forum de la laïcité. CFM Cahors, merci d'être avec nous dans ce forum de la laïcité organisé par l'UDAF, la CAF, la préfecture. Jusqu'à 14h, nous sommes avec des intervenants, on parle de laïcité. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est vraiment très très vaste. Alors on va essayer de comprendre techniquement et concrètement comment cela se déroule, avec notamment nos invités qui sont ici. C'est la CAF du Lot. Alors il y a Céline Braun qui est avec nous et qui est responsable de service dans l'action sociale. Bonjour Céline.
Bonjour.
Et Romuald Mareux, qui est conseiller technique. Bonjour Romuald.
Bonjour.
Alors, conseiller technique, dans quel est votre rôle par rapport à la laïcité, alors, en fait ?
Alors, par rapport à la laïcité, pas seulement. Le rôle du conseiller technique en CAF, c'est tout simplement de porter la politique d'action sociale de la branche famille auprès de des partenaires de la CAF. Il peut s'agir des collectivités territoriales, des partenaires associatifs, des services déconcentrés de l'État et porter des priorités nationales au niveau des départements et des communes et des intercommunalités.
Alors pendant qu'on discute, hein, vous intervenez quand vous voulez, hein, entre vous, parce que vous êtes deux. Si vous avez des choses à rajouter, vous n'hésitez pas à le dire. Est-ce que quelqu'un d'ailleurs peut me dire pourquoi la CAF a accepté de faire ce forum de la laïcité ? Déjà, on aurait dû commencer par ça à la base. C'est vrai.
Oui, alors déjà, peut-être situer que la caisse d'allocation familiale, c'est la branche famille, et que la branche famille, ça appartient à une grande institution qu'on connaît tous, et qui est la sécurité sociale. Et donc, la sécurité sociale, depuis plus de 70 ans, c'est quand même une institution qui porte des valeurs fortes, comme l'universalité, la solidarité, l'égalité. Donc c'est dans ce cadre-là que la branche famille s'inscrit, et entre autres la CAF du Lot. Et pour être un peu plus précis, en 2015, en fait, avec l'impulsion du ministère en charge des affaires sociales, la Caisse nationale, la CNAF, et puis les différentes CAF de France se sont associées avec des partenaires divers et variés pour, avec des experts extérieurs tels des juristes, sociologues, réfléchir autour de cette thématique de la laïcité, qui est une valeur en fait qui transcende ce qu'on appelle nous les politiques familiales et sociales, mais aussi réfléchir sur la pratique des professionnels, les évolutions liées entre autres à Internet et aux réseaux sociaux. Et également le repérage de situations et l'accompagnement des familles qui peuvent être confrontées à des situations de radicalisation. Donc tout ça fait que il y a eu un fort positionnement et de là on est, on va dire, sorti l'élaboration d'une charte de la laïcité.
Alors il faut dire que la CAF, point de vue laïcité, vous êtes vraiment en plein dedans parce que quoi qu'il arrive, quelle que soit la religion des personnes, vous avez des prestations qui sont versées à tout le monde en fait. Donc est-ce que des fois, ça vous pose pas de problème par rapport au contact avec des gens qui essayent peut-être de faire valoir leur côté, je sais pas comment expliquer, mais par rapport à leur religion ou autre.
Non.
Parce que ce que je veux dire par là, c'est qu'à la CAF, vous gérez aussi des allocations, mais aussi des centres de loisirs, des crèches, etc.
Oui, tout à fait.
Et là, on se retrouve en plein dedans.
Mais pour résumer, on va dire qu'il y a deux grandes portes d'entrée qui vont être en effet le service des prestations. Où sont mes collègues et qui vont verser les diverses prestations que l'on connaît. Hein. On peut en citer quelques-unes, allocation logement, allocation de jeunes enfants, qui sont des prestations individuelles, donc qui sont évidemment couvertes pour tous, devoir de neutralité. Enfin voilà, là-dessus, il n'y a pas de questionnement à se poser. Après, il y a le volet de l'autre service que je représente avec mon collègue, qui est le service de l'action sociale, où, comme vous dites, on va verser là des prestations plutôt collectives pour faire fonctionner des services qui sont pour les citoyens et de proximité. Donc ça va être de l'accueil du jeune enfant, des crèches, mais aussi de l'accueil de loisirs, périscolaires, extrascolaires, des centres sociaux, des espaces de vie sociale, des foyers de jeunes travailleurs, l'aide à domicile. Donc c'est vrai qu'on va être amené à verser diverses prestations. Et l'avantage aujourd'hui, c'est que cette réflexion autour de la laïcité, on va l'avoir avec tous ces partenaires que je viens de citer. J'en ai peut-être oublié quelques-uns, mais en gros, c'est ça. Et on va avoir cette charte de laïcité qui va être dans le conventionnement de ces prestations qu'on va avoir avec eux. Donc c'est un socle sur lequel aussi on peut continuer d'échanger, partager, afficher et puis se questionner, comme aujourd'hui, entre autres.
Est-ce que ça demande du coup une formation en continu du personnel de la CAF ? Parce que la laïcité, enfin la définition de laïcité change. Hein, on en a parlé pendant cette émission en 1905, la laïcité c'était différent de ce que l'on veut lui donner maintenant, quoi.
Mais en tout cas, oui, ça nous porte aussi, nous, à discussion avec la Caisse nationale, avec des référents laïcité au sein de chaque CAF, avec des rapprochements nécessaires, des fois, lorsque des questions se posent à nous en tant que professionnels, des formations qui peuvent avoir lieu. On a également de flécher des financements sur ce thème, des valeurs de la République et de la laïcité, d'où notre participation aussi financière à ce forum qui va se passer aujourd'hui. Donc, en effet, ça fait partie de notre pratique professionnelle. Alors, plus ou moins, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, selon les départements. Voilà, moi, je viens du Tarn-et-Garonne. J'ai été amenée, par rapport aussi aux effets d'actualité, à peut-être avoir une entrée plus forte à un moment sur une actualité qu'il demandait, et puis différemment sur le Lot aujourd'hui.
Romuald Mareux, le conseiller technique sur le terrain avec la laïcité, c'est quoi ces enjeux?
Oui, alors justement, pour rebondir sur ce que disait Céline, nous, en 2016, c'est bon, la branche famille, historiquement, on porte les valeurs de la laïcité. Et pour faire suite à la charte nationale qui avait été co-construite avec les partenaires de la Caisse nationale d'allocation familiale et l'ensemble des acteurs qui avaient participé à cette charte, on avait organisé en 2016 déjà un premier événement sur la laïcité et sur les pratiques et mettre en tension la laïcité aux pratiques professionnelles de nos partenaires. On avait invité pour cela M. Christopher Charles, qui était maître de conférence, qui est maître de conférence en droit public, donc avec une approche un peu plus juridique des questions de laïcité. Et on avait essayé de mettre en tension justement comment se pratique la laïcité au quotidien auprès de nos partenaires, vous l'avez cité tout à l'heure, les accueils de loisirs, les crèches, les centres sociaux aussi. Sur Cahors, on a des centres sociaux qui sont sur des quartiers politiques de la ville. Alors c'est vrai que ce n'est pas là où forcément on a les plus gros problèmes, plus qu'ailleurs, hein, j'ai envie de dire, sur les questions de laïcité. Mais on avait essayé de travailler avec l'ensemble de nos partenaires sur les questions de la distance et la posture professionnelle vis-à-vis de la laïcité. C'est aussi les règles de vie, comment bien vivre ensemble. C'est des questions qui sont remises aujourd'hui de manière très présente dans le débat public. C'était aussi de travailler sur le respect de l'éthique et du débat. C'est comment on arrivait au quotidien, dans ces espaces, à créer des conditions favorables au débat. Voilà, tout simplement. C'est aujourd'hui s'autoriser à parler de tout, sans tabou, dans le respect de l'autre. Voilà. Et ça, c'était essentiel à nos yeux de travailler cette question-là en 2016. Et aujourd'hui, on essaie de rebondir un peu sur la semaine de la laïcité, comme le disait M. Régny tout à l'heure, pour organiser ce forum et remettre un peu ces questions de laïcité au centre de des équipements qu'on accompagne. Et on sait que des centres sociaux que l'on accompagne organisent déjà, se forment sur ces questions-là en interne, pour être outillé en tant que professionnel et au quotidien avec les habitants du territoire pour travailler ces questions de laïcité.
Parce que dans les centres sociaux, alors je pense que la Ligue de l'enseignement viendra peut-être nous en parler. Elle est ici. Donc du coup, on sait que par exemple, c'est très difficile la cohabitation parfois de ne pas parler de sa religion. Hein, et on ne parle pas, parce que dès qu'on parle de gens qui parlent de religion, on pense forcément à l'islam, mais c'est aussi d'autres religions qui ont envie de convaincre et autres. Et là, on se retrouve coincé à ce problème-là aussi dans vos endroits que vous gérez. Donc comment on fait pour éviter qu'il y ait conflit, pour que ça soit un lieu neutre?
On doit être très clair en tant que professionnel sur sa posture.
Ce qui n'est pas facile. Alors j'interviens parce que ce qui n'est pas facile pour un professionnel qui a lui-même aussi sa religion.
Bien sûr. Donc on doit en tout cas en tant que professionnel voilà, être dans cette neutralité et dans cette posture, comme disait Rommel, d'écoute, de bienveillance par rapport à un public très divers et diversifié qui va venir dans ce lieu de rencontre. Et à partir de là, comme on le disait tout à l'heure, on n'enlève pas la religion des uns et des autres, la croyance ou la non-croyance, ça n'est pas une question, ce n'est pas une difficulté en tout cas. On est plutôt sur comment on partage des moments ensemble, comment on a le droit d'avoir des conditions diverses, et on porte quand même des valeurs en commun, Et on le vit dans son quotidien, en partageant des temps avec ses enfants ensemble, en allant à une sortie familiale, en étant sur un café d'échange. Enfin, j'allais dire que tout est possible, rien n'est tabou, et qu'on prend la personne dans ce qu'elle est, dans sa croyance ou sa non-croyance. Et on est vraiment sur les notions de respect avec des valeurs très fortes derrière. Donc voilà, on va avoir beaucoup de mamans qui vont accompagner sur certaines sorties et qui vont prendre toute leur place, quelle que soit leur religion.
Le savoir-vivre ensemble.
Complètement.
Tout simplement. Pour terminer, Romuald Mareux, si vous avez accepté de participer à ce forum de la laïcité, qu'est-ce que vous attendez comme résultat? Ou qu'est-ce que vous attendez tout simplement de ce forum?
Ben, nous, en tant que branche famille et caisse d'allocation familiale, on souhaite surtout que ce soit dans la continuité de ce qu'on avait démarré depuis 2015, en tout cas sur la branche famille, et de démarrer d'autres actions ensuite sur le territoire, alors avec peut-être une approche territoriale un peu plus de proximité, que bon, peut-être sur le Grand Figeac ou ailleurs, et trouver des partenaires avec lesquels travailler cette dimension de la laïcité, avec les publics aussi, notamment avec l'éducation nationale, essayer de se rapprocher et pour sensibiliser et en tout cas apporter ces notions de laïcité au plus près des jeunes, et donc avec les collèges, etc. Donc ça, c'est un vrai enjeu pour nous de pouvoir développer d'autres actions avec nos partenaires sur l'année 2022 et l'éducation nationale.
Alors, c'était important, effectivement, que vous nous parliez, parce que la CAF, on a simplement l'image du distributeur de prestations sociales. Désolé, hein. C'est comme ça, hein. C'est vrai que c'est votre rôle principal, on va dire, le plus gros rôle peut-être.
Peut-être le plus visible et le plus visible. Affiché, ouais. Peut-être médiatiquement, à tort, puisqu'on voit bien que ça c'est une entrée parmi d'autres, hein, au niveau d'action sociale.
On ne se rend pas compte effectivement de ce qu'il y a derrière, en fait, des actions que vous pouvez faire derrière. En tout cas, merci d'être venu, merci Romuald Mareux, conseiller technique, et merci Céline Braun, responsable de service de l'action sociale à la CAF du Lot, hein, parce que vous m'avez dit que vous êtes Tarn-et-Garonne, vous êtes bien avant, donc vous êtes bien du Lot. Hein.
Oui.
On reste ensemble encore sur CFM, le prochain invité va arriver pour continuer à parler sur ce forum de la laïcité. À tout de suite. CFM Cahors en direct depuis le centre universitaire de Cahors pour ce forum de la laïcité organisé par plusieurs partenaires d'ailleurs, dont la préfecture, dont la CAF, et puis en priorité évidemment, enfin en priorité c'est peut-être pas le bon terme, mais ceux qui ont coordonné tout ça, c'est l'UDAF du Lot qui ont été parmi nos invités aujourd'hui. Cette fois nous allons nous intéresser à ces associations qui nous parlent laïcité au sein de leurs fonctions, et pour cause, il y a le conseil départemental des associations familiales laïques qui est représenté aujourd'hui par Bernard Delpech. Bonjour Bernard Delpech.
Bonjour.
Et puis la Ligue de l'enseignement. Alors là aussi, c'est un gros sujet, la laïcité dans l'enseignement. Et on va voir comment ça se passe avec Cyril Alagnou. Bonjour Cyril.
Bonjour.
Et vous représentez le président Claude Pouget qui ne peut pas être là aujourd'hui. Alors la DAFAL, déjà, le DAFAL, pardon, je ne sais pas pourquoi je vais dire à chaque fois, ouais, il va me mettre des baffes et je les aurais bien méritées. Le DAFAL, c'est le conseil départemental des associations familiales laïques. Alors, c'est quoi une association familiale laïque?
Bien, tout à l'heure, vous venez de le dire, l'UDAF organise ce forum de la laïcité. En tant que conseil départemental des associations familiales laïques, on est adhérent de droit à l'UDAF et on y apporte une vision peut-être un peu plus laïque, puisqu'il y a des associations comme Famille de France, les familles rurales aussi également. Et c'est aussi toute cette diversité autour de la table de l'UDAF au sein de l'Assemblée Générale que justement on apprend aussi avec nos différences à vivre ensemble.
Comment vous agissez, vous, sur le terrain au DAFAL? Comment vous aidez à la laïcité?
Je dirais que comme la Ligue de l'enseignement, on est un mouvement d'éducation populaire. On a un certain nombre d'agréments de la part du gouvernement. On intervient, on est une, une fédération qui est en fait une fédération très généraliste. On aide les familles sur le plan de la consommation, parfois sur le surendettement. On intervient, on est agréé aussi par le ministère de la Santé. Donc il y a aussi tout cet aspect de suivi de la famille. Sur la santé, il y aura aussi beaucoup de choses à dire. Également sur d'autres sujets, comme par exemple, on est agréé par l'ANCV, l'Agence nationale des chèques vacances. C'est-à-dire qu'on aide aussi, on favorise le départ en vacances d'enfants ou même de familles aussi aujourd'hui, puisque les deux sont distincts. Les enfants peuvent partir seuls ou ils peuvent partir en famille. On intervient parfois dans le cadre de l'école ou avec parfois l'inspection d'académie. Et je suis très heureux aujourd'hui que l'UDAF prenne le relais, puisque la Ligue de l'enseignement comme le GDAFAL ont fait partie de ce qu'on appelle le GDAL, le Comité départemental de l'action laïque. Et jusque-là, on était assez seul à porter la laïcité, en tout cas à la porter publiquement. On avait lancé un certain nombre d'opérations ces 3-4 dernières années d'arbres de la laïcité, qui est aussi symbolique que celui de la liberté. Au GDAFAL, on ne peut pas concevoir la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, sans la laïcité qui vient consolider ce triptyque. Et on y associe toujours un travail avec des classes élémentaires qui préparaient un travail avec nous là-dessus. Donc c'est quelque chose, comme l'a dit Cyril aussi, c'est une valeur qui est une valeur vivante.
Alors Bernard Delpech, pourquoi une association accentue dans son nom sur le laïc ?
Ben, c'est sans doute une tradition après la guerre. Le GDAFAL est sorti aussi des mouvements de résistance. L'UDAF traînait derrière elle, désolé pour les membres de l'UDAF qui sont ici, mais je fais une référence qui est plutôt historique, était plutôt connotée pétainiste, avec vraiment une vision uniquement traditionnelle, qui renvoyait d'ailleurs au paternalisme qu'on retrouve jusque dans la critique de ce paternalisme pendant les années 60 et surtout le mouvement de 68. Et d'ailleurs, mon mouvement, qui est représenté nationalement aussi également, ne siégeait pas à l'UNAF et ni à l'UDAF. Donc on a décidé dans les années 70 d'intégrer aussi et de montrer nos nuances, en fait, pour participer aussi à ce bien commun que sont le triptyque, mais que aussi la laïcité. On ne peut pas tout regarder sous l'angle de la religion. Pour le combat ou les combats qui ont été menés en France, je pense plus particulièrement à celui de l'avortement, de l'IVG, quoi, où il n'y a pas eu que des gens favorables. Donc ces combats-là, par exemple, ils ont été menés aussi par un mouvement d'éducation populaire, un mouvement familial qui n'a pas cette tradition conservatrice. On se vit plutôt comme des progressistes.
Donc si je comprends, il y a une époque, les associations ont été toujours très connotées religieusement ou politiquement, alors. Oui. Parce que la laïcité, on parle beaucoup de religion, mais c'est aussi la laïcité, c'est aussi faire abstraction de la politique.
Oui, c'est faire abstraction de la politique, mais quand vous regardez le début du quinquennat de Hollande avec une loi, par exemple, avec le mariage pour tous, on voit bien quand même que
le débat,
ce
ouais.
sont des mouvements, enfin on est allé au-delà du débat, même une fois la loi votée, on a vu les mouvements les plus conservateurs et je dirais même les plus réactionnaires sortir dans la rue avec toujours, pas dans la nuance, avec des propos extrêmement virulents et violents, pas seulement à l'égard du gouvernement, mais c'est aussi une façon de vouloir préserver une idée de la famille qui ne peut plus être figée aujourd'hui. Donc ça reste, le GDAFAL reste, il me semble, d'une grande actualité par rapport à nos débats contemporains.
Alors vous parliez de l'histoire effectivement de l'UDAF, hein, mais rassurez-vous, maintenant l'UDAF ce n'est plus ça du tout, au contraire c'est devenu même une association, une des associations laïques hein, d'ailleurs, entre parenthèses, qui fait partie du DAFAL donc.
Non. C'est l'inverse.
C'est l'inverse, voilà, c'est ça.
C'est le DAFAL qui est adhérent et membre de droit de l'UDAF.
Oui. D'accord. Cyril Alagnou, Ligue de l'enseignement, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce qu'est la Ligue de l'enseignement ?
Ligue de l'enseignement, Fédération des œuvres laïques du Lot.
Oui.
Vous évoquiez le nom de, enfin, le mot de laïcité.
Là aussi, il y a le mot laïque, d'accord. Donc déjà, c'est pas de religion, ça n'a pas été créé dans un but religieux, alors forcément.
Non, la Ligue de l'enseignement, c'est, je pense, un mouvement très très ancien qui date de 1866. Hein, c'est Jean Massé qui avait créé cette dynamique d'éducation populaire. Et c'est une... Voilà, on est représenté dans chaque département. Chaque département est affilié à la Ligue nationale. Et nous, donc, ce qu'on essaie de promouvoir, c'est le vivre ensemble. Et c'est promouvoir la laïcité au travers d'expériences de vie, de formation, autour, avec et dans l'école.
Alors concrètement, par exemple, un exemple.
Concrètement, on essaie de mettre en avant des actions autour de la lecture, autour du sport, des moments qu'on partage avec les élèves, les enseignants, en leur proposant donc, je pense notamment à les cartes de la fraternité, où on propose aux enseignants de réfléchir avec leurs élèves sur des messages ouverts à tous, quoi.
Les enfants, est-ce que finalement ils savent ce que c'est que la laïcité au final ? Parce qu'ils sont encore dans un âge où ils sont plutôt un peu innocents.
Alors je pense qu'ils la vivent plus que de mettre des mots dessus. Eux ils la vivent au quotidien, c'est-à-dire c'est partir en vacances avec leurs camarades, quels qu'ils soient. C'est se former aussi, puisque... dans nos actions, on propose des formations autour de l'animation. Donc il y a un cheminement qui se fait au sein de la Ligue et de l'accompagnement des petits enfants qu'on peut accueillir en colonie, qui vont vivre des expériences, qui après vont devenir animateurs, qui vont se former à travers le BAFA, les choses comme ça, et qui vont transmettre des valeurs qu'ils auront vécues ensemble, au travers d'expériences communes.
Donc quand vous faites une formation BAFA, par exemple, il y a cette notion de laïcité qui est abordée ?
Alors, elle est forcément abordée dans ces grandes lignes. Ce qui est surtout important, c'est de garantir le contexte et le vivre ensemble. Voilà, c'est vraiment notre... On essaie de pas se centrer sur le mot laïcité, mais de l'expérimenter au travers d'expériences communes. Ce que nous, on appelle plutôt le vivre ensemble.
Et ça commence déjà même au point de vue de la formation, parce que pour ceux qui savent comment se passe une formation BAFA, il y a un moment où tout le monde est dans un endroit commun et forcément avec ses croyances, sa vision de la vie.
La formation BAFA, c'est l'occasion de rencontrer des personnes d'horizons divers, mais de tous se mettre autour d'une table et réfléchir à un projet commun. C'est ce qui est important pour nous.
Cyril Alagnou, vous qui intervenez donc la Ligue de l'enseignement dans les écoles, est-ce que finalement le personnel enseignant est suffisamment formé par rapport à ça ? Ou est-ce que vous avez l'impression que parfois ils se retrouvent aussi confrontés à... On ne les a pas préparés peut-être ?
Alors c'est une grande question qui renvoie à la formation des enseignants. Donc peut-être que mon voisin en dira un peu plus, mais la formation des enseignants, elle s'est réduite au fil des ans, et aujourd'hui on a un niveau de qualification qui est très élevé dans le recrutement, mais en même temps le temps commun de formation au sein des INSPE est très réduit.
D'accord.
Je ne sais pas si peut-être
Bernard Delpech,
mon collègue veut rajouter quelque chose.
Oui, un complément pour avoir été enseignant et être néo-retraité. Je dirais que pendant très longtemps, l'école normale a été le séminaire républicain dans lequel la laïcité occupait...
L'école normale, c'est là où on
formait autrefois les instituteurs. Et avec la réforme, la formation des enseignants a connu des vicissitudes et le président Sarkozy avait supprimé l'UFM qui avait remplacé les écoles normales. Il n'y avait plus... On était le seul corps de métier qui n'avait plus de formation. Donc, il y a un moment... En tout cas, il y a eu une interruption pendant 5 ans de la formation des enseignants.
D'accord.
Et puis, c'est une notion extrêmement difficile à manier avec les jeunes, et on a absolument besoin de formation pour pouvoir le transmettre. Et puis, ce que disait Cyril, pour aller juste un tout petit peu plus loin, quand on a des jeunes enfants, des élèves qui nous sont confiés, on les élève dans les valeurs de la République, et on n'a pas en face de nous des petits protestants, des non-croyants, des musulmans, des juifs. Non, on a des élèves, des enfants, et tout ça est mis de côté, et c'est aussi ce qui permet d'avancer, de travailler, de progresser. Puis on connaît les autres aussi avec leur indifférence. Les choses se jouent ou les échanges sont dans la cour de récréation. Et la Ligue de l'enseignement s'intéresse plutôt au périscolaire et surtout à l'extrascolaire. C'est vraiment une association complémentaire de l'école qui vient renforcer le travail qui est fait par les enseignants. Et puis à la Ligue, il y a énormément d'anciens enseignants.
Alors pour terminer, Bernard Delpech, et puis je vous repose à la même question, Cyril Alagnoux, qu'est-ce que vous attendez de ce forum? Et peut-être même de la table ronde qui va se dérouler.
Oui, écoutez, j'essaierai d'être déjà de bien faire mon travail de modérateur. Comme je l'ai dit au début, ce forum de la laïcité, je suis très heureux qu'il y ait d'autres relais dans le département, que la préfecture en soit partie prenante, que Mohamed ait fait tout ce travail de préparation et que l'UDAF ait pris... voilà, les temps ont bien changé et je pense qu'il faut faire vivre cette valeur. C'est aussi un principe, on aura l'occasion de le rappeler cet après-midi, c'est aussi un principe juridique, mais qui pose les bases et les fondements de la société. Et j'encourage, j'espère qu'on pourra diffuser ces échanges. Et puis, j'espère que les relais seront pris, qu'on sera de plus en plus nombreux. Et vous avez prononcé le mot de politique tout à l'heure. On voit bien que la laïcité a été accaparée ou appropriée par d'autres. Et je pense qu'il faut que le camp républicain soit extrêmement vigilant sur ce que c'est que la laïcité et qu'on ne s'en serve pas pour... Ce n'est pas l'exclusion, la laïcité, c'est tout l'inverse. Voilà.
Et quand vous parlez du clan républicain, on parle bien de la République française et non pas d'un parti politique. Hein. C'est de ça. Hein.
Oui, quand, bien évidemment.
Voilà. Pour pas jusque-là. Ouais. Voilà, pour ne pas mélanger, effectivement. Cyril Alagnoux, qu'est-ce que vous attendez, vous, de cet échange que vous allez avoir, de ce forum?
Moi, je m'inscris dans la continuité des propos de Bernard Delpech. Je crois que nous, on se réjouit également de la tenue de ce forum. On le disait tout à l'heure, participer à la formation des citoyens, plus on sera nombreux à le faire et plus on touchera un public large. Donc voilà, ce forum est un signe d'ouverture et je pense que on est très heureux de pouvoir participer, contribuer à notre niveau.
Merci beaucoup messieurs d'être passés, Bernard Delpech du DAFAL. Je ne suis pas tombé dans le panneau là. Et Cyril Alagnoux de la Ligue de l'enseignement. Merci beaucoup d'être passé. Vous êtes sur CFM Cahors jusqu'à 14h. Nous sommes au Forum de la laïcité depuis le centre universitaire de Cahors. Et dans quelques instants, on va avoir affaire à des artistes qui vont nous exposer leur programme. Et nous aurons aussi l'occasion de discuter avec un formateur, justement, qui lui est là. Sur le terrain pour parler laïcité et former peut-être les professionnels qui sont forcément mis à contribution dans ce lot. Vous êtes sur CFM Cahors, merci d'être avec nous. FM Cahors, le mag qui joue ses prolongations aujourd'hui en direct depuis le centre universitaire Maurice Faure à Cahors. On est en plein dans le forum de la laïcité. On a eu des intervenants qui étaient très intéressants et je pense que ça va continuer encore. Enfin, je l'espère quand même, hein, parce que Solène, Héloïse, pardon, je ne sais pas pourquoi je l'appelle Solène, ça commence déjà bien.
J'ai un deuxième prénom apparemment.
Héloïse a déjà la pression puisque ce sont des artistes qui représentent la compagnie, on va vous dire compagnie Sénart pour l'instant.
Alors, collectif d'artistes.
Collectif d'artistes, c'est d'accord. ça vous va comme voilà, mot, si ça me va très bien, c'est pas mal. Vous venez de la Bastide du Vert et vous êtes là effectivement. Pourquoi d'ailleurs? Qu'est-ce que des artistes viennent faire ici dans ce forum de la laïcité, Héloïse?
Eh bien, très bonne question. En fait, on a rencontré du coup ce charmant Mohamed qui a fait l'appel à nous. Et ça s'inscrit totalement dans ce qu'on veut aujourd'hui transmettre par ce groupe qu'on a créé justement. Et voilà, on a tellement de compétences diverses, on a une idéologie de transmission, de bien-être et de développement créatif. Et du coup, forcément, ce thème-là s'inscrivait totalement dedans, en fait.
Comment la laïcité, on peut la retranscrire dans l'art?
Justement, y a tellement de possibilités, finalement, parce que c'est en même temps complexe, mais en même temps simple aussi, en fait. Mais je pense qu'on a tellement peut-être oublié un peu ce concept-là, que c'est difficile maintenant de le retranscrire avec des thèmes simples. Mais je pense que l'idée du rassemblement déjà dans l'art est super importante.
Par exemple, cet après-midi, vous allez faire quoi?
Et cet après-midi, voilà, on a par exemple 3 toiles pour nous. Donc chacun va interpréter la laïcité et qui va se regrouper en même temps. Donc on a 3 toiles différentes, mais c'est un regroupement. Parce qu'à la base, c'est ça, de toute façon, la laïcité, c'est un rassemblement de personnes, un échange, c'est un partage. Et c'est super important de retranscrire ça, en fait, dans ce qu'on veut aujourd'hui amener.
Là, ce collectif d'artistes, il est concerné par la laïcité?
Oui, je pense. Hein. Parce que c'est tellement ouvert, il y a tellement de choses à partager dedans que... C'est super important. Des artistes en soi, ils ont beaucoup de choses à raconter, en fait. Et donc la laïcité, je pense que c'est quand même la base, tout simplement.
Vous intervenez où? Est-ce que vous intervenez dans des écoles, dans des associations?
Alors, pour l'instant, on intervient donc sur la Bastide du Vert. Du coup, on est intervenu dans une salle des fêtes, justement, avec une association, la Bastide vers vous. Notamment. Et on fait aussi des cours particuliers aussi, et on peut intervenir sur différents lieux, sur différents événements, un peu partout, quoi, finalement. Donc,
Alors, depuis tout à l'heure, Héloïse, on dit artiste, mais artiste, c'est vaste. C'est peintre, c'est sculpteur, c'est musicien,
c'est tout,
écrivain.
En fait. C'est... Mais en fait, Alors, c'est un tout. C'est un tout.
Il y a de tout?
Mais complètement, en fait, c'est tellement...
Par exemple, dans ceux qui sont là aujourd'hui, Laurent Louchet, il est là. Alors, il voulait pas prendre la parole, et ça tombe bien. Laurent, quelle est ta spécialité?
Alors, spécialité coloriste, pastelliste, à la base. Voilà, donc je travaille à la craie. Et pour le principe, la formation que j'ai faite, et surtout sur le clair-obscur et sur la lumière.
Pour la laïcité, c'est pas mal. C'est au point de vue des couleurs, déjà, on est dans le thème. Hein. Ça, c'est clair.
Cette formation, cette compétence, je l'ai, mais l'idée, c'était de la transmettre avec justement ce collectif d'artistes qui ont des compétences diverses. Et l'idée, c'est de transmettre tout ça à d'autres personnes qui aimeraient pouvoir vivre cette créativité-là, ou tout du moins apprendre... Je dis toujours la même phrase en général, mais c'est un peu comme dans Ratatouille, on peut tous apprendre à cuisiner, quoi. Donc on peut tous apprendre à dessiner.
Ça me va très bien comme référence, Ratatouille.
Je
suis qu'animateur radio, ça me va très bien.
Le principe de laïcité s'inscrit complètement dedans, quoi. Le fait de partager avec des gens différents, avec des cultures différentes aussi. Et pouvoir travailler ensemble sur un même thème, justement.
C'est ça.
C'est ce que vous allez montrer d'ailleurs tout à l'heure.
Exactement.
Vous êtes concerné un peu ou pas, entre vous, ou c'est un peu la surprise?
Non, on a quand même travaillé un peu sur
un peu
thème,
quand même.
Ouais,
c'est pas de l'impro, quoi.
On est dans l'impro aussi, parce que la laïcité, ça reste quand même très, très général. Mais on avait besoin de cerner quelques mots par rapport à cette laïcité. Donc, entre autres, protection civile, liberté, voilà, toutes ces choses qui étaient importantes.
C'est ça.
Et après, transcrire en dessin. C'était la partie la plus difficile.
Ah
c'est comment on amène ça, en fin de compte, ces mots-là.
C'est vaste. Hein.
Dans un aspect visuel et pouvoir l'amener comme ça.
C'est pour ça que c'est compliqué quand même. Hein. Il y a tellement d'idées, finalement. Maintenant, pour regrouper dans une, c'est là qu'il faut réfléchir et il faut emmener ça. Mais...
C'est quoi ta spécialité d'ailleurs, Héloïse Louchet, à toi?
Alors moi, je fais principalement du dessin manga. Donc tout ce qui est axé au Japon aussi. Et après, sinon, je touche un peu à tout, sanguine, peinture, pastel, mais sinon, c'est spécialité manga, vraiment.
Il y a avec vous Marie Pédèche.
Oui.
Quelle est sa spécialité?
Marie.
Ah, Marie. Ah,
elle vient nous rejoindre.
Allez, c'est Laurent qui te laisse la place, Marie. Donc, quelle est ta spécialité, Marie ?
Plusieurs.
Oui.
C'est-à-dire que j'utilise plusieurs techniques.
Ouais.
Je suis autodidacte en plus.
Ouais.
Ça peut être de la peinture, du pastel, ça peut être. Je peux faire des vitrines aussi pour des magasins, par exemple. Là, j'en ai fait pour Noël. Ça peut être la sculpture. Là, je touche un peu le bois aussi, par exemple. L'intérêt, c'est d'avoir plusieurs compétences pour pouvoir nous les transmettre et proposer en fait à un public complètement éclectique et différent. Et puis, bah, on a, comme je disais, des enfants, on a des adultes, mais adultes de plein de générations. Donc, on s'adapte aussi à eux, à ce qu'ils souhaitent développer et puis diffuser, s'exprimer en fait. Moi, c'est surtout que la créativité, c'est réellement un moyen d'expression. De transmettre sa pensée ou son sentiment. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, on a notre place dans le sens où voilà, on nous donne un thème et nous, c'est quelque chose qui nous parle, puisqu'on a des gens de toute religion et tout horizon. Et c'est vrai que c'est important de peut-être le mettre en image un peu pour essayer de faire un peu comprendre ce que nous, on voit par laïcité. Donc, voilà.
Et puis il y a avec vous, je crois qu'il n'est pas là aujourd'hui, Nicolas ?
Si.
Si, il est là. Eh bien alors, Nicolas, c'est pareil du coup, hein, on en est... C'est le photographe. Alors il faut parler dans un micro en radio, tu sais, Nicolas. Alors on va te laisser la place.
Je pense qu'il n'a pas compris le concept encore.
Ah bah lui c'est l'image, moi c'est le son.
Bah, voilà.
C'est pour ça. Bonjour Nicolas, ta spécialité donc photographe.
Plus largement, en fait, je suis informaticien. Moi, je gère à peu près, on va dire, la communication sur les différents réseaux sociaux qu'on peut utiliser, les échanges sur notre site web que nous avions et qui actuellement est fermé pour maintenance. Et ensuite, oui, effectivement, je m'occupe de la photographie sur les événements, la vidéo et l'échange avec les personnes qui sont autour. S'ils ont des questions à poser sur Scénart, je réponds en partie en début.
Eh ben merci voilà. En tout cas d'être passé. Vous commencez à quelle heure votre
14h.
14h. Voilà. Et vous allez donc chacun être dans votre coin. Vous êtes rassemblés.
On est juste sur le côté.
Vous êtes, c'est ça. Oui, alors sur le côté.
Voilà, chacun sur une toile différente.
Chacun sur une toile différente. Et ça sera parti à 14h.
C'est ça.
Et résultat, donc, vous avez jusqu'à quelle heure pour le faire ?
18h, voilà.
Vous avez jusqu'à 18h pour rendre votre copie.
Top chrono.
Exactement.
Merci le collectif Scénart.
Merci à vous.
Merci d'être venu et bon courage dans quelques instants sur CFM. Pour terminer cette émission spéciale, nous allons être avec Mathieu Rossignol. Il est formateur à l'UDAF, justement, avec un sujet qui est très important sur ce sujet-là, la laïcité. Comment on forme les gens à ce niveau-là ? Nous allons le savoir dans quelques instants. De retour sur CFM Cahors en direct depuis le centre universitaire Maurice Faure de Cahors. On parle laïcité avec ce forum de la laïcité organisé par l'UDAF, avec la CAF, avec la préfecture, avec d'autres associations que nous avons découvert ici. Donc il y a la Ligue de l'enseignement, il y a le DAFAL. Et puis on a des artistes qui sont là, il y a la DRETS Occitanie aussi qui participe. Et puis nous avons décidé de terminer cette émission spéciale avec ce métier de formateur Valeurs République Laïque. Alors je l'ai peut-être mal dit, mais en tout cas il va tout nous expliquer, c'est Mathieu Rossignol. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Alors VRL, c'est Valeurs...
Alors Valeurs de la République et Laïcité.
Voilà, j'avais oublié les petites interjections en même temps. Ça consiste en quoi ?
En fait, c'est un plan national qui a été développé il y a plusieurs années, suite en fait aux attentats de 2015. En fait, il y a eu des remontées du terrain de professionnels qui voulaient aussi se former et poser des questions sur comment on parle de laïcité avec les gens. Et donc, en fait, il y a un collectif qui s'est créé avec des universitaires, avec des professionnels, avec des juristes, avec des sociologues, des psychologues, qui ont développé un plan de formation qui est très bien fait. Et moi, je l'ai découvert en fait il y a 3 ans, où je me suis inscrit sur cette formation en tant que professionnel. Moi, je suis intervenant social dans une résidence habitat jeune.
C'est ce que j'allais dire. Ouais.
Donc, c'est les nouveaux noms des foyers de jeunes travailleurs. Donc, moi, je travaille avec des 18-30 ans. Et donc, c'est un moment où on discute de tout, et notamment de laïcité, de religion. Et moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que ça fait partie de nos vies. Et je pense que quand on en parle de manière posée et assez calme, on peut discuter de ces sujets-là. et aller assez loin avec les gens suivant où ils veulent aller. Et donc, je cherchais aussi à me former pour aller plus loin, pour avoir une base juridique. Et en fait, il y avait cette formation qui a été proposée. Et c'est là où, du coup, j'ai rencontré Mohamed. Et à la fin de la formation, j'ai discuté avec lui parce que c'était une formation très, très axée sur l'échange entre professionnels et de différents domaines. C'est-à-dire que moi, du coup, je travaille dans un foyer de jeunes travailleurs. Il y avait des personnes de la préfecture, il y avait des personnes de centres sociaux, d'associations d'insertion, de l'éducation nationale. J'ai entendu qu'on parlait d'éducation nationale tout à l'heure. Il y avait deux CPE. Et en fait, je me suis dit, voilà, c'est ça qui est intéressant dans une formation. C'est quand on nous donne une base juridique, un contexte, et qu'on discute, qu'on fait des études de cas, et qu'on discute entre professionnels et comment on crée une réponse cohérente. Et donc, j'ai demandé à Mohamed, est-ce qu'on pourrait pas devenir formateur, par hasard? Parce que moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, la transmission. Et donc, il se trouve qu'il y avait une formation 2 mois après à Toulouse pour devenir formateur, du coup, de niveau 2, qui forme les gens, en fait, les professionnels.
D'autant plus que dans ta fonction au sein de la résidence Habitat Jeune, la laïcité, on est en plein dedans.
Ah bah oui.
Parce qu'en plus, je ne suis pas sûr que les jeunes aient forcément conscience de ce que c'est réellement la laïcité.
Non, en fait, ils sont un peu comme tout un chacun. Hein. Ils entendent ce qui se dit dans les médias, sur les réseaux sociaux. Et effectivement, ils sont un peu avec ça. Donc, ils ont une construction un peu comme tout. Et souvent, ils pensent que c'est un sujet, la religion, où on n'en parle pas, où ils se disent « Est-ce que tu es sûr qu'on peut en parler ?» Je dis « Mais moi, à partir du moment où tout le monde est là pour discuter et pas pour convaincre ou imposer ses idées aux autres, on peut discuter de tout. »
Échanger, oui. Imposer, voilà. Non.
C'est ça. Moi, je suis quelqu'un qui part du principe que quand la personne qui cadre la discussion et au clair avec ça, où on cadre, on a un cadre, on peut discuter de tout. Et chez nous, on discute de politique, on discute de religion, on discute de tout. Par contre, c'est ça, voilà, on discute, on n'impose pas. Et en plus, maintenant, j'ai la chance d'avoir une base du coup juridique de ce qui est réellement le cadre juridico-politique, la laïcité. Et c'est intéressant dans nos sociétés de revoir cette base-là. Et du coup, je suis très content de le transmettre aussi à d'autres professionnels qui essaient cette arme-là et cette assise, pour en discuter eux aussi à leur tour, pour pas se faire déposséder de ça. Et souvent, quand on a fait cette formation de 2 jours, on se rend compte qu'il n'y a pas grand monde qui l'a faite, notamment dans les médias, et qu'il y a beaucoup de gens qui feraient bien de la faire, parce qu'ils diraient un peu moins de contre-vérité.
Un exemple?
Bon, je ne vais pas donner d'exemple, mais il y a eu des prises de position dans certaines institutions de représentants qui ont par exemple mis en exergue une maman qui accompagnait un groupe d'enfants et qui disait que cette maman n'était pas laïque parce qu'elle portait un signe ostensible, ce qui est faux en fait, parce que quand on accompagne juste un groupe d'enfants, pour l'instant, il faut voir les nouvelles applications des lois qui arrivent, mais pour l'instant on a le droit. Donc voilà, il y a plein de petits sujets comme ça où on brandit la laïcité pour dire vous n'avez pas le droit de faire ça.
Bah, c'est un peu ce qu'on disait avec Daniel Verba, maître de conférence en sociologie qui va intervenir dans l'après-midi, c'est qu'effectivement la laïcité devient en elle-même une religion.
Voilà.
Et si on n'y fait pas gaffe.
Et voilà, et puis ça, dans l'idée où quand on écoute le débat public aujourd'hui, on a l'impression que c'est de la coercition et que ça interdit les choses, alors que pas du tout. En fait, ça permet au contraire de vivre ensemble. On a parlé de vivre ensemble tout à l'heure. Alors moi, je reviens même à ce terme qu'on a un peu abandonné, dont on revient, de la fraternité. En fait, juste, ça nous donne un cadre où on peut tous vivre nos croyances, changer de croyance, en avoir, ne pas en avoir. En fait, c'est ça, la laïcité en soi. C'est un cadre où on nous dit, vous avez le droit de croire ou de ne pas croire et de changer de croyance.
Mathieu Rossignol, quand tu fais cette formation auprès de ces professionnels, est-ce que tu t'es rendu compte que parfois, ils avaient eux-mêmes, d'ailleurs, leur propre idée de la laïcité qui n'était peut-être pas adéquate?
Oui, enfin, pas adéquate. Je pense que la plupart des gens en ont déjà entendu parler et donc se sont construits une idée de ce que c'est. La formation commence par ça, c'est la première chose après les présentations, c'est les idées reçues. Et donc on discute de ces idées reçues, on en a quelques-unes, et comme ça on introduit. Après, nous, la base, c'est vraiment l'idée, c'est des échanges bienveillants et tout ce qui va se dire dans la formation, sauf quand on est sur des choses vraiment trop extrêmes, ça reste dans la formation, ça n'a jamais été le cas. Hein. Les gens sont tous là pour apprendre. Donc on part aussi de ce qu'eux, ils veulent. Et après, tout de suite, on a un petit retour historique sur la construction de la laïcité. Et après, un cadre juridique. Donc de base, la première matinée, on se construit un socle commun, qui est très important aussi pour discuter des mêmes choses pendant 2 jours, d'avoir un petit socle commun à la fois en termes historiques, juridiques et un glossaire. Voilà, on se refait les définitions ensemble. Donc, Donc après, oui, ça aide à se construire normalement. À la fin, si on fait bien notre travail, ils ont une idée un peu plus précise de ce que c'est que quand ils sont arrivés.
Et il y en a besoin.
Il y en a toujours besoin parce que même nous, en fait, toutes les formations, on se le repose et on se le re-questionne et on découvre des nouvelles personnes avec des nouvelles expériences. Donc ça redéfinit encore un peu plus. Là, on a eu la chance depuis 2 ans de travailler avec des personnels hospitaliers où c'est d'autres questions. En fait, la laïcité, quand on est potentiellement, on a eu une personne qui était en soins palliatifs. Voilà, la fin de vie, la laïcité, c'est des... Voilà. Donc à chaque fois qu'on rencontre de nouvelles personnes, et c'est ce qui est très intéressant dans ces formations VRL, c'est qu'il y a vraiment des publics très différents, des professionnels, des bénévoles qui viennent de milieux très divers et donc qui apportent des nouveaux angles et des nouvelles questions. Donc même nous, ça nous fait du bien. Mais oui, c'est important. On pousse. Vu que c'est des formations gratuites, n'hésitez pas à envoyer vos équipes se former.
C'est qui d'ailleurs peut bénéficier de ces interventions alors
tout professionnel et tout bénévole.
De n'importe quelle fonction, même si on n'est pas forcément. Enfin, il faut être avec le public, j'imagine.
Pas forcément. On a eu des personnes d'administration. On a eu l'occasion d'ailleurs de se poser des questions sur des personnes qui avant étaient dans le secteur privé, donc des anciens responsables RH ou choses comme ça, qui après ont glissé dans le social avec Pôle emploi ou des personnes au département, et qui se rendent compte en fait que même leur positionnement des fois sur des recrutements ou sur des gestions, parce qu'il y a aussi tout un axe sur le droit du travail qui est très important, et eux n'étaient pas au courant, donc on réfléchit beaucoup avec Mohamed comment aussi on pourrait toucher en fait ces personnes-là qui sont dans le secteur purement privé, qui à la base se disent pourquoi eux on parlerait de laïcité. Parce qu'en fait, on est tous des citoyens, on a tous des droits, et notamment en termes de travail, et la laïcité en garantit quelques-uns. Et donc, souvent, les gens ne sont pas au courant. Et donc, on va essayer d'ouvrir le plus possible aussi aux gens qui ne sont pas forcément étiquetés comme formation autour de la laïcité, où on pense tout de suite des travailleurs sociaux qui sont en lien avec le public. Mais en fait, quand on travaille avec des gens, et je pense que tout le monde travaille avec des gens, personne ne travaille purement tout seul, sinon ils sont sur des structures autonomes, et là... on est confronté à l'autre, donc au respect. Et donc, voilà, je pense que ça fait pas de mal de se le redire.
Avant que tu sois formateur aussi, ta définition de la laïcité, elle était erronée d'après toi ?
Elle n'était pas erronée, mais elle n'était pas complète. Moi, j'étais très axé... de base, dans mon métier, c'était effectivement des questions autour du vivre ensemble et de la liberté de chacun. Donc moi, c'était les deux mots que j'ai retrouvés... Je les ai gardés. On commence aussi la formation avec 2 petits post-it. Qu'est-ce que c'est pour nous, la laïcité ? Et du coup, moi, je crois que j'avais mis un truc comme liberté et vivre ensemble.
On peut être réticent dans ces formations quand même à la laïcité, parce que quand on a une formation, c'est très souvent, on nous l'impose aussi. Hein, voilà. On n'a pas forcément envie de parler de laïcité. Moi, je suis bien dans ma religion au final, peut-être.
Oui, alors après, vu qu'on déconstruit très vite ce côté-là, genre justement, on n'est pas sur de la coercition, on n'est pas là pour vous imposer des choses, on n'est pas là pour vous dire vous n'avez pas le droit de le faire, mais plutôt pour vous dire vous avez le droit de faire ça. Tout de suite, normalement, les gens se détendent. Et après, effectivement, sur le côté... Il y a aussi des gens qui arrivent et font « Ah, c'est une énième formation, alors notamment sur la laïcité. Qu'est-ce qu'on va bien se raconter pendant 2 jours ?» Les gens, ça va être barbant, ça va être descendant. Et juste, il y a vraiment des gens qui arrivent. On sent que quand ils arrivent le premier jour, ils sont là pour s'ennuyer clairement pendant 2 jours. Notre boulot et le plan est fait pour ça, vu qu'il y a de l'interaction très très vite avec des exos et des travaux en groupe. Normalement, cette image-là se casse assez vite.
Eh ben, je ne sais pas comment ils font, parce que de trouver ça ennuyeux... Moi, je ne me suis pas ennuyé depuis midi. On va être obligé de rendre l'antenne, parce que le forum va commencer. Les gens commencent à rentrer, d'où ces bruits que vous entendez de portes, etc. Parce que c'est la vie ici. On est au centre universitaire. Il y a des gens qui vont arriver. Il va y avoir des intervenants très, très intéressants que vous avez donc entendus ici. Puis il y en aura d'autres aussi qui n'ont pas pu venir. Bon, en tout cas, ça sera sûrement une autre opération à renouveler. Le directeur de l'UDAF, Tristan Hérault, de loin, il me fait signe, hein, ça sera à renouveler, effectivement. Bon, voilà. Eh bien, ça sera très intéressant. Et Mathieu Rissignol, juste dernière question, on s'adresse à qui pour ces formations, d'ailleurs ?
Alors le mieux, c'est de se mettre en lien avec l'UDAF, parce que c'est eux qui coordinent sur le département.
Et on est d'accord, pas besoin de travailler avec des enfants, pas besoin d'être dans le social. Ça
même
peut
pas
être
besoin
dans...
de travailler, juste être bénévole, ça suffit.
Oh, même être bénévole, d'accord, très bien. Merci Mathieu.
Plusieurs bénévoles, ouais.
Merci Mathieu Rossignol.
Avec grand plaisir.
C'est la fin de ce magazine, merci de l'avoir suivi. Écoutez, je vous dirais bien rediffusion à 17h et 21h30, mais malheureusement, vu que l'émission dure 1h30 et qu'il n'y a qu'un créneau horaire d'une demi-heure, ça va être difficile. En tout cas, une chose est sûre, on se retrouve demain pour un nouveau magazine sur CFM à midi. Merci d'être avec nous. On reste ensemble pour l'après-midi. Dans quelques minutes, le journal.